en dirait des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Imaginez M et Oxmo Puccino en caleçon blanc et tricot de corps sur fond de désert. Pourquoi et comment se sont-ils ainsi fait dépouiller? La réponse est dans le nouveau clip du chanteur aux 8 victoires de la musique. Un indice, si tu lèches la langue du lion, il te dévore, entend-on en bambara au début du film qui illustre l'esprit festif et coloré de cet album dans lequel la chora de Toumani et Sidiki Diabaté prend toute sa place aux côtés de la voix d'or de Fatoumata Diawara et la collaboration de plusieurs autres artistes internationaux. 4 ans après la sortie de son album Il, Mathieu Chédid vient nous présenter L'Amoumali. L'album est sorti chez Vagram Music et vous m'en direz des nouvelles.
J'entends dans ta chora parfois même ta colère. J'entends dans ta chora ton cœur qui bat, mon frère.
Mathieu Chédid.
Bonjour.
Alors ça y est, maintenant vous êtes griot.
Bah non, on n'est pas griot comme ça, mais c'est vrai que, en tout cas, j'aime bien l'idée de la transmission, j'aime bien l'idée de la poésie et d'une certaine sagesse, donc ça m'inspire en tout cas.
Alors dès les premières notes de l'album, il y a cette poésie justement de la chora des Diabaté. Comment est-ce que vous êtes rencontrés avec Toumani et Sidiki Diabaté?
J'ai rencontré d'abord Toumani. Et je l'ai rencontré à Bamako la première fois où j'ai été en 2006 avec Amadou et Mariam pour le festival Paris-Bamako. Et j'ai rencontré plein d'autres artistes comme Tiken Jafakoli. Il y avait Oxmo Puccino qui était déjà avec moi dans cette aventure. Et donc ça a été effectivement une grande découverte, une grande rencontre. Déjà le Mali, ce pays, et puis c'est effectivement toutes ces personnalités, ces musiciens. Et j'ai recroisé Toumani aussi à Africa Express avec Damon Albarn pour encore ces grandes réunions de jam avec plein de musiciens où tu te retrouves entre Tony Allen qui est le batteur de Fela, Flea le bassiste des Red Hot Chili Peppers, etc. Donc bref, que des grands musiciens. Check Tidiane aussi qui est un sublime pianiste.
Oui.
Donc voilà, l'idée c'est que on est musiciens quoi. Donc on...
Et vous êtes parti tout de suite sur une jam justement,
tous les deux.
Ou tous les trois?
Ah oui, moi c'est vrai que j'aime ça, j'aime l'improvisation, donc je me retrouve souvent à jammer beaucoup avec tous ces musiciens. Ouais. Ouais.
Et la chora alors justement, comment est-ce que vous l'avez entendue, ressentie? Vous avez eu envie, j'imagine, de la prendre entre vos mains et de gratter?
Presque pas, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu sacré, d'un peu précieux. J'ai eu la chance de découvrir la chora avec Toumani Diabaté, qui est quand même un des maîtres de cet instrument, et c'est vrai que ça m'a effectivement transcendé, parce que faut quand même imaginer que c'est un instrument qui est non pas celui-là, mais en tout cas ce genre d'instrument est transmis depuis 71 générations chez les Diabatés, qui sont effectivement une famille de griots. Et donc quand même Sidiki, le plus jeune, qui a 25 ans, joue de la kora, c'est quelque chose qui nous traverse, quoi. C'est-à-dire que c'est, il y a vraiment un message très fort qui parvient, quoi.
Et l'idée de l'album est née de cette rencontre?
Oui, on avait très envie avec Toumani, très naturellement, d'aller plus loin, parce que on partageait déjà la scène ensemble. Toumani venait souvent sur mes concerts nous offrir un vrai moment de communion, parce qu'on était là juste guitare kora et on vivait des moments comme ça très purs et qui avait l'air de, qui nous est, enfin, on était très émus et puis le public avait l'air de l'être aussi. Et puis on s'est dit si on allait un peu plus loin pour voir, quoi.
En 1999, Mathieu Chédid, sur l'album Jeudi M, il y avait cette chanson intitulée Mama Sam, dans laquelle on entendait ceci.
Non, je ne connais pas l'Afrique.
Non, je ne connais pas l'Afrique.
Elle grille ma couleur de peau.
Elle grille ma couleur de peau.
La vie est une machine.
La vie est une machine.
Où les affreux n'ont pas d'amour.
Non, je ne connais pas l'Afrique. C'est ce que vous chantiez en 1999. Oui. Aujourd'hui, vous ne pourriez pas chanter la même chose.
Ben non, ou comme un souvenir d'une époque en tout cas, parce que c'est vrai que c'est à l'époque où une grande amie à moi, qui était ma première amoureuse quand on avait 15 ans, quelques années plus tard, est partie en voyage avec ma sœur d'ailleurs et Mathieu Bogert, qui était un ami aussi intime. Et ils étaient au Kenya plutôt, près du lac Baringo. Et donc elle est tombée amoureuse du Kenya et d'un homme là-bas. Et c'est vrai que c'était fascinant pour moi, le petit Parisien qui voyait ça de loin. J'étais toujours pas allé en Afrique, mais mon amie tout d'un coup a vécu vraiment cette vie pendant pas mal d'années. Elle a même accouché dans sa case, quoi, sans même passer par un hôpital, quoi. C'était assez impressionnant pour nous de notre point de vue. Et donc ça m'a inspiré cette chanson Mama Sam, puisque son premier fils s'appelle Sam et que je suis le parrain, fièrement. Et donc voilà, c'est vrai que c'était une histoire assez marquante pour moi, et j'avais toujours fantasmé cette Afrique.
Et le premier contact avec l'Afrique, la première fois que vous avez posé le pied sur le continent africain,
L'Afrique noire, c'est en 2006 pour ce fameux festival Paris Bamako.
Oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes arrivé là? Parce que quand on entend cet album, on a l'impression que vous êtes senti presque chez vous, finalement, sur le territoire africain.
C'est-à-dire que j'ai été hyper bien accueilli par les Maliens. Parce que c'est-à-dire que même la première soirée, je m'en rappelle, bon, déjà, effectivement, tu mets le pied sur la terre rouge, les odeurs, l'ambiance. C'était étonnant, ils avaient ramené ce qu'ils appellent les grandes personnes. C'est des marionnettes géantes. Donc je sors déjà de l'aéroport et je suis accueilli par des danses de marionnettes géantes. C'était assez poétique. Et puis le premier soir, je vais dans un maquis, c'est-à-dire les bars musicaux. Il y a un groupe qui joue une musique incroyable, évidemment des gens sublimes qui dansent. Enfin, on est toujours fasciné par cette musique et cette danse. Alors moi, comme un espèce de, enfin, je sais pas quoi, de blanc décalé. Enfin, on est très impressionné, quoi, par cette beauté-là. On m'a proposé de venir sur scène jouer un morceau. Et là, j'ai commencé. Je fais pas vraiment je fais même pas de musique malienne, moi. C'est-à-dire que c'est plus du ressenti.
Oui.
Donc, je me suis mis à jouer, on va dire, je sais pas moi, du funk et du Jimi Hendrix sur la musique malienne. Et je me suis fait effectivement baptiser par les Maliens, qui m'ont servi de l'alcool à boire et qui me jetaient des billets à genoux sur scène comme ça. Donc, j'ai été baptisé dès la première soirée par eux, quoi. Et d'une certaine manière, j'ai toujours eu ces signes avec les musiciens maliens, c'est-à-dire qu'ils m'ont toujours accepté comme un frère. Et ça m'a touché.
Et aujourd'hui, comme vous l'expliquez dans l'album...
Comme un vertige sur la ville, moi, l'homme hibou blanc, imbécile, dans un boubou pas très agile, plutôt fragile. J'ai comme les doigts dans la prise, te voir danser m'électrise, peut-être même que ça m'érotise, que j'idéalise. Malice au mali d'émerveille, le mali dieu crée la flamme. Le mali danse dans mon âme. On y soit qui mali pense, qu'importe la couleur de ta peau. Béni soit qui au mali danse, au son des balles de Bamako.
Yeah.
bateau, c'est moi le capitaine. Tu danses pas, sois le croque-mitaine. La voix arrive par la droite, il reste une chance et sois pas maladroite. Fais le décalement, ouais carrément, vire-le, qu'on le fasse légalement. Si tu penses, c'est que c'est possible. Aujourd'hui c'est dimanche, demain aussi. Respire sans morosité, douce ou cassini, porosité. Si quelqu'un appelle, dis-lui qu'on se tire un bal réel. Tout bassin fait l'hélicoptère.
Oh, ni soit qui mal y pense, qu'importe la couleur de ta peau. Béni soit qui au mal y danse, au son des balles de Bamako.
Mathieu Chédid est avec nous dans VMDN sur RFI. Au passage, on a reconnu la voix et la poésie d'Oxmo Puccino, qui est donc aussi votre complice dans le clip que j'évoquais au début de cette émission. On a presque l'impression que c'est une aventure à deux, le Mali.
Oui. Enfin, là, franchement, cet album, c'est une aventure collective, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment l'idée de partager cette musique avec plein d'artistes, et puis d'une manière un peu plus universelle, puisque il y a beaucoup de Maliens, mais il y a aussi des artistes un peu du monde entier, quoi. C'était l'idée vraiment d'ouvrir, en fait. Je crois qu'on a besoin profondément aujourd'hui de faire des projets ouverts et pas de rester dans un petit monde un peu clos.
Alors, c'est vrai qu'il y a du beau monde sur cet album. Il y a Jane, il y a Madou et Mariam, que vous avez d'ailleurs évoqué tout à l'heure. Il y a Ibrahim Maalouf, Oxmo Puccino, Nekfeu, j'en passe. Et puis, il y a Fatoumata Diawara, superbe voix. Ouais. Comment est-ce que vous l'avez rencontré?
La première fois, c'était à Marseille, pendant ce festival, enfin, de Damon Albarn, là, qui s'appelle Africa Express. Et donc, c'est un espèce de concept où tu te retrouves avec plein de musiciens à jammer. Donc là, c'était magnifique. Il y avait plein de gens incroyables. Et donc, effectivement, je découvre Fatoumata Diawara sur scène. Et là, c'est un coup de foudre, en tout cas artistique, parce que c'est vrai qu'elle est d'une grande beauté. À tout niveau, elle danse, elle chante d'une manière gracieuse, sublime. Et donc, voilà. Et en fait, ce qui était très étonnant, c'est qu'on m'a dit, ben, viens jouer de la guitare. Moi, c'est mon grand truc, c'est de prendre ma guitare, d'aller jouer un peu partout. Et donc, je me suis retrouvé à jouer. En fait, j'ai découvert Fatoumata sur scène, quoi. On a joué ensemble. C'est vrai que c'était assez explosif, quoi. On a senti qu'il y avait un truc à faire.
Ouais, alors ce qui est formidable dans cet album, Mathieu Chédid, c'est que c'est à la fin complètement M, on vous reconnaît tout de suite, et en même temps, c'est complètement africain. Comment est-ce que la mayonnaise a pris entre vous, tous les artistes dont on vient de parler, et puis ces deux types de musique, votre identité dans la culture musicale africaine?
Bah, c'est vraiment ça, le vrai travail, c'est-à-dire d'arriver à faire une fusion, une alchimie entre les mondes. Évidemment, faire de la world music, ce serait pas, enfin, je ne serais pas capable de le faire d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est de créer un nouveau son. Et ça, c'est vrai qu'on est parti de la kora d'abord, qui est le cœur de l'album. Et ça a été une bonne année, un peu plus même de gestation, d'expérience, d'expérimentation pour trouver un espèce de son. De faire aussi un espèce de faire une musique malienne 2.0, quoi. Il n'était pas question de faire quelque chose de trop traditionnel, mais de respecter profondément l'âme de cette musique.
Alors justement, comment est-ce que vous avez trouvé l'équilibre?
C'est vraiment c'est empirique, quoi. Faut chercher, faut tâtonner, faut expérimenter. Et donc évidemment, c'est collectif aussi, puisque c'est des invitations. On improvise beaucoup, hein. C'est vrai que c'est très instantané comme album aussi. Il y a la plupart des textes, des choses sont écrites sur le moment, quoi, sur le vif.
Alors Mathieu Chédid, il y a évidemment la scène derrière tout cela, et lors de la tournée La Momali, à quoi va ressembler M? Est-ce qu'il va endosser un boubou pas très agile, là, pour reprendre les paroles de la chanson?
En tout cas, je me suis payé quand même une afro M sur le clip, et ça m'a fait bien plaisir. Mais non, j'aime bien me moquer de moi, ça me plaît beaucoup, mais par contre là, c'est vrai que j'ai pas envie de me mettre trop en avant sur scène. Je vais être en avant musicalement, mais je vais pas effectivement arriver en M, ça serait un peu décalé.
Oui.
Et on a aussi cette chance extraordinaire d'avoir Jean-Paul Gaultier qui nous fait les costumes de la tournée, donc c'est assez flamboyant. Donc c'est vraiment une explosion de fêtes et de couleurs. Et on va être tous un peu dans l'univers malien, quoi. C'est-à-dire, on va dire dans le côté wax, bazin, etc. Mais à la Jean-Paul Gaultier, c'est-à-dire taillé Donc entre guillemets pop et afro pop quoi.
Et puis très très loin de cette culture afro, il y a la présence sur ce disque de Philippe Jaroussky, le contre-ténor qu'on a reçu il y a pas si longtemps dans cette émission. Pourquoi lui? Parce qu'on s'y attend pas du tout.
Parce que j'adore Philippe Jaroussky. C'est une voix que j'adore et c'est vraiment des projets où rien n'est impossible et j'aime aussi profondément les contrastes. C'est voilà, je pense qu'on peut pas exprimer mieux la musique malienne, le balafon. Notamment c'est sur le Bonheur, donc où il y a Karfala qui est un griot vraiment malien très important là-bas et qui avec un balafon, donc on est vraiment dans l'authenticité malienne. Et je trouvais que pour mettre ça en lumière, rien, c'était pas plus beau que, enfin, ce qui était joli, c'était de mettre un quatuor à cordes assez serré comme ça avec Philippe Jaroussky. Effectivement, j'aimais bien le contraste.
Et ça donne ça. Philippe Jaroussky et M, le bonheur sur RFI. On va marquer une courte pause pour le flash et on se retrouve juste après Mathieu Chédid avec notre seconde invitée Marie-Anne Niemcy. On va parler art contemporain et art contemporain africain plus précisément et vous m'en direz des nouvelles.
Des nouvelles. Jean-François Cadet.
Toujours avec Mathieu Chédid pour L'Amour Mali, l'album malien de M. Toumani et Sidiki Diabaté, avec entre autres Fatoumata Diawara. C'est chez Vagra Music.
C'est tard, t'en souviens-tu? Ce bel instant perdu d'un Paris qui n'est plus. C'est tard, t'en souviens-tu?
l'odeur d'un matin nu, d'un Mali dévêtu.
Cette terre, c'est le titre de ce morceau que vous chantez, Mathieu Chédid, en compagnie donc de Fatoumata Diawara. Vous avez collaboré il y a pas si longtemps, Mathieu Chédid, avec un plasticien contemporain et non des moindres, puisqu'il s'agit du photographe Martine Parr, le temps d'une exposition à Arles et ensuite à la Philharmonie de Paris. Quel regard est-ce que vous portez sur l'art contemporain ?
Je suis complètement fasciné par l'art contemporain. Je crois que c'est ce qui me touche, c'est cette idée de ressenti justement, et ce qui me plaît dans l'art contemporain, c'est quand je suis loin du côté intellectualisation de la chose, c'est-à-dire que je suis un peu effrayé souvent par les analyses de textes, parce que oui. Je trouve que souvent c'est un peu à côté de la plaque. Dès le moment où on analyse l'art en général, il y a quelque chose d'un tout petit peu décalé. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a des ressentis, des émotions incroyables, et c'est extrêmement nourrissant quand on fait des chansons, quoi, parce que ça va dans des endroits comme ça un peu obscurs, et ça ressort d'une certaine manière.
Et notamment la photographie à travers Martine Parr. Qu'est-ce que vous avez ressorti justement de cette expérience là?
Non, alors je suis vraiment complètement admiratif de Martine Parr. J'avais déjà la chance d'avoir des photos de lui à la maison et tout ça, donc c'est vraiment, je suis un admirateur. J'ai fait cette chose assez naïve à travers quelqu'un qui le connaissait un peu, de rencontrer Martine Parr comme un fan, quoi, pratiquement, et lui dire, voilà, j'adorerais faire qu'on fasse des trucs ensemble. Tu veux pas faire des photos de mes concerts? Il m'a regardé un peu bizarrement. Et puis, en fait, au final, il est venu effectivement à Bercy, il a fait des photos incroyables, et j'avais envie de lui renvoyer l'appareil, donc j'ai mis en musique ces images. Ce que j'aime chez Martine Parr, c'est qu'il y a aussi cette dérision, cet humour, et en même temps, cette vision complètement unique et singulière, quoi. C'est-à-dire que on reconnaît immédiatement une photo de Martine Parr.
Bonjour Marianne Yamsi.
Bonjour.
Vous êtes consultante en art contemporain, commissaire d'exposition. Vous avez été la curatrice du Focus Afrique de la foire Art Paris il y a quelques jours. Vous avez monté plusieurs expositions d'art contemporain à travers l'Europe et vous présentez en ce moment aux Galeries Lafayette, à la Galerie des Galeries plus précisément, une exposition intitulée Le jour qui vient. C'est jusqu'au 10 juin. Alors l'idée, c'est quoi? C'est de montrer au public comment les artistes contemporains africains se projette dans l'avenir?
Oui, alors le jour qui vient entre en résonance avec l'événement Africa Now qui va s'installer dans toutes les Galeries Lafayette. Et le jour qui vient, je pense que c'était aussi une forme de petit pied de nez à cette actualité, ce printemps parisien où on va enfin regarder l'Afrique.
Donc, enfin.
Oui, enfin, parce que je pense que en France, on a un temps de retard comparé aux voisins européens, l'Allemagne, dont je suis aussi originaire, la Belgique, le Royaume-Uni, et qu'il était temps, effectivement, qu'on regarde l'Afrique telle qu'elle est, et certainement pas telle qu'on la fantasme encore, et telle qu'on l'exotise.
Alors cette exposition a réuni des œuvres de 15 jeunes artistes, hein, issus à la fois du continent ou de la diaspora africaine. Comment est-ce que vous les avez choisis, ces artistes?
Alors, moi, ce que je tiens à préciser, c'est que cette exposition n'est pas une cartographie de la création contemporaine sur le continent africain.
Ah non, c'est vraiment des choix.
Ce sont des choix. Je pense que ces jeunes artistes, où qu'ils vivent, ils nous rappellent qu'on est dans un monde en relation. On est dans ces accolements des mondes dont parle Édouard Glissant. Et ils sont comme toutes les jeunesses du monde, c'est-à-dire qu'ils écoutent les mêmes musiques, ils ont les mêmes codes vestimentaires, sont des artistes qui voyagent, qui font des résidences, etc. Moi, ce qui m'intéressait, c'est leur vision. Je suis une commissaire qui, en fait, laisse un espace de liberté. Je donne des clés, je pose des choses sur la table, ils les prennent ou pas. Voilà, ce qui était créer cet espace, entendre des voix multiples et qui rendent compte d'un monde qui est multiple, ouvert. Donc je tiens aussi à préciser que certains artistes n'ont qu'une relation assez lointaine avec le continent africain. Mais justement, ils relatent d'un monde qui est le monde des identités choisies et qui ne renvoie pas nécessairement au lieu où on est né, à un territoire. On est dans un monde de multi-appartenance et j'en suis un exemple, et aussi d'identité qu'on choisit.
Alors c'est vrai que la question de l'identité, elle est vraiment au cœur du débat en Afrique, mais aussi en France, Mathieu Chédid, au cœur notamment de cette campagne électorale. Identité choisie, pour reprendre l'expression de Marianne Yamsi, est-ce que c'est un concept qui vous va bien? Certains ont parlé d'identité heureuse, d'autres d'identité française. Comment est-ce que vous vous situez dans ce débat-là?
C'est presque une histoire d'âme, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis plus connecté aux âmes, quoi, avec la grâce à la musique. Et on célèbre un peu l'idée de l'âme, quoi. Et que quelque part, il y a même plus d'identité dans l'âme. C'est un côté plus universel. C'est aller chercher. Mais effectivement, là, c'est presque un peu trop poétique, peut-être. Mais je suis effectivement convaincu que la richesse est dans la diversité et que c'est vraiment la plus belle chose qu'on puisse avoir. C'est un cadeau inouï. Et c'est vrai que il est temps. C'est fou comme l'Afrique, d'ailleurs, revient comme une sorte d'appel un peu, même j'allais dire vital chez tout le monde, et comme un retour à la terre, aux racines, à quelque chose.
L'Afrique, c'est le creuset, effectivement, évidemment, de l'histoire de l'humanité. On a un peu l'impression aujourd'hui qu'elle se retrouve au centre, pas uniquement géographique, mais au centre même de ses identités, de ses cultures, de cette ouverture à l'autre.
Oui, alors vous faites référence à ce qu'a souvent dit Achille Mbembe, qui est un grand philosophe d'origine camerounaise, qui a justement récemment proposé les ateliers de la pensée à Dakar. Donc ça, c'était une grande, grande source d'inspiration pour moi. Il l'a fait en collaboration avec Vel Winsar. Parce que je pense que ce qu'ils nous disent là, c'est que l'Afrique est un centre, et son propre centre, et n'a pas besoin de l'Europe en miroir. Et c'est une Afrique qui est aujourd'hui fertile, créative, imaginative et surtout fière de ce qu'elle est. Et comprendre l'autre, le rejoindre, c'est pas créer des frontières, c'est pas créer des barrières, c'est ne pas participer à ce que Stuart Hall, qui est un grand penseur des cultural studies, a dit, c'est cette fabrique de l'oubli. C'est-à-dire qu'on considère que l'autre est étranger à soi, dénué de tout ancrage historique, et donc on le met à distance et on l'exotise. Et cette notion du collectif aussi, il l'a souligné à plusieurs reprises, c'est ces différences entre, je vais employer un terme en anglais, on dit souvent le « me » et le « we », c'est-à-dire le « moi », le côté extrêmement individualiste de nos sociétés occidentales, et le « oui », le « nous » du collectif. Et ce collectif a un sens sur ce continent africain extrêmement fort, et il nous rappelle des valeurs aussi, des valeurs de solidarité et de partage.
J'ancrais l'espérance aux racines de ma vie. Planter des flambeaux à la lisière des nuits. Nafs al-shams tashruq alayhi wa alayhi. Nafs al-najmi al-ayouni tadwi baynayhi. Amizade até sem querer faz com que a bondade se instale sem saber. Com boa vontade vamos estender as mãos, promovendo a união pra poder melhor viver.
La grande vie nous a plongé dans sa cohue. Dehors y'a pas d'étrangers, y'a que des inconnus. Solidarité, voilà ce qu'on est venu demander. La beauté n'a pas de frontières, les frontières n'ont pas de beauté.
Nous sommes les nouveaux rois. Nous sommes les nouveaux rois. Nous sommes les nouveaux rois. Vous êtes les nouveaux rois. Vous êtes les nouveaux rois. Vous êtes les nouveaux rois.
Solidarité, nouvel extrait de La Mombali, l'album malien de M, Toumani et Sidiki Débatté avec Fatoumata Diawara, mais aussi toute une série d'artistes que vous avez réunis, notamment pour cette chanson Solidarité, Mathieu Chédid, qui illustre à merveille ce que nous disait Marianne Yamsi tout à l'heure.
Oui, complètement. Non, là, c'était l'idée, effectivement, d'élargir ce Mali à la planète et de faire une chanson très universelle avec... Alors, évidemment, la chanson n'est pas assez longue pour mettre vraiment toutes les cultures.
Elle dure plus de 6 minutes, je crois.
Mais en tout cas, c'était l'idée de ramener pas mal de belles âmes et de vibrer ensemble, quoi. Et c'est vrai que c'est ça qui était joli, c'est que il y a tout le côté théorique, conceptuel de toutes ces choses de solidarité, et puis il y a le côté beaucoup plus organique de les vivre, quoi. Et c'est vrai qu'il y a une grande différence entre le dire et le vivre.
Oui, et là, il y a effectivement des interprètes issus de chaque continent.
Oui, pratiquement. On en a oublié quelques-uns, malheureusement, parce que c'était.
Donc c'est au Georges, le Brésilien, ouais. La Chinoise Chacha, ouais. L'Indien Sanjay Khan.
Exactement, Santi Gold, une chanteuse américaine, et puis il y a comme Youssou N'Dour.
Non des moindres. Alors comment est-ce qu'elle est
Nekfeu aussi, bref.
Nekfeu aussi, on va pas tous les citer, mais enfin il y en a quand même énormément. Il y a une Libanaise aussi, hein, Iba Tawaji. Ouais, et puis il y a cette phrase aussi qui n'est pas dans cette chanson là, Mathieu Chédid, et qui est dans le titre Toi et moi, qui est une phrase de la poétesse André Chédid, votre grand-mère. Toi, qui que tu sois, je te suis bien plus proche qu'un étranger.
Qui que tu sois, je te suis bien plus proche qu'étranger, c'est ça. C'est vrai que c'est exactement ce qu'on disait, c'est-à-dire que c'est ça, il s'agit de transmission déjà, parce que ma grand-mère, elle est toujours très présente, et je trouve ça toujours. Donc c'est un peu la devise de cet album, parce que, et d'ailleurs c'est JR qui a fait la pochette du disque aussi, et qui a vraiment symbolisé une sorte de femme iconique comme ça. Et c'est vrai que donc on célèbre aussi la femme à travers ma grand-mère et cette photo de JR. Et puis voilà, c'est le message qu'on a besoin. On dit qu'on est un peu dans un oubli parfois de nos propres racines, quoi. Il faut pas oublier qu'on est beaucoup plus proche qu'étranger, c'est une évidence, on le sait profondément d'ailleurs, il faut juste se le rappeler un peu plus. Donc voilà, je l'ai mis effectivement comme phrase, un peu comme devise de cet album, et on le retrouve sur les affiches des concerts, on le retrouve sur la pochette du disque, cette phrase.
Marianne Yamsi, parmi les artistes dont vous exposez les œuvres en ce moment à la Galerie des Galeries, il y a certains qui nous parlent justement de ce qu'on pourrait appeler le cosmopolitisme, voire l'hybridité culturelle. Je pense par exemple au Nigérian Ruby Onyinyechi Amanze.
Oui, alors Ruby est une artiste femme. Elle, plus que du cosmopolitanisme, j'ai pas tellement envie d'employer ce mot. Je pense que
ces hybridité artistes, culturelle, oui, dit-on dans le catalogue.
C'est moi qui ai écrit hybridité, mais c'est plus dans le travail sur les formes, c'est-à-dire que ce sont des artistes qui utilisent tous les médiums, et quand ils ont cette virtuosité, cette jeune génération, quand ils utilisent un médium classique, c'est de le revisiter. Et quand ils s'intéressent aux techniques traditionnelles, ils les travaillent de manière à ce qu'elle crée en quelque sorte de nouvelles esthétiques. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressée dans ces rencontres avec ces artistes, et cette aisance qu'ils ont. Et ils sont probablement plus à l'aise que leurs aînés, qui avaient une certaine gêne à utiliser certaines techniques traditionnelles, parce que on les renvoyait sans cesse, vous savez, à ces artistes-là qui font des œuvres avec trois bouts de bois, etc. Donc ils avaient envie vraiment de se détacher, oui. Et eux, au fond, finalement, sont assez à l'aise. C'est en ça que je parle d'hybridité dans le travail sur les formes, et puis après, sur le contenu, mais oui, bien sûr, l'hybridité des cultures, mais en même temps, voilà, ils vivent dans ce monde, ils le regardent, ils incorporent dans leurs œuvres ce qu'ils vivent. Au fond, ils sculptent le monde, et c'est ça qui m'intéresse.
On note quand même, parmi les artistes que vous avez choisis, une forte proportion d'artistes d'Afrique australe, et en particulier d'Afrique du Sud. Il y a une raison particulière ?
Moi, j'ai veillé à ce que sur l'affiche et sur tous les supports de communication ne soit jamais mentionné l'origine, le pays de ces artistes. Alors, vous faites une analyse assez fine et qu'effectivement, il y a pas mal d'artistes d'Afrique australe. Ça vient d'abord de mon travail depuis plusieurs années de sortir un peu de la francophonie. C'est-à-dire qu'on a regardé ces dernières décennies en France, où on a d'ailleurs très peu présenté les artistes du continent africain, on a essentiellement regardé vers la francophonie. Donc une manière de encore recréer des frontières. Et moi, j'ai souhaité aller vers cette Afrique, disons, anglophone, lusophone, et jusque d'ailleurs l'Afrique du Nord. Je fais des projets en Égypte, justement. Et c'était important pour moi d'aller ailleurs. Après, vous savez, s'il s'agit de rencontres, je vais beaucoup en Afrique du Sud, à peu près tous les 6 mois. D'abord parce que c'est un hub de l'art contemporain sur le continent africain. C'est là où il y a des universités, où les étudiants sont, et où je peux de là circuler au Zimbabwe, au Malawi, etc. Donc, oui, c'est lié à des rencontres. Et peu importe d'ailleurs d'où ils viennent, c'est ce qu'ils ont à nous dire qui est intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes de cette zone du monde, de cette zone du continent. Et puis j'aimerais bien qu'on dise aussi qu'il y a beaucoup d'artistes femmes.
Oui.
Et je suis heureuse d'en présenter presque la moitié dans les 15 artistes de l'exposition.
conclusion. From my work at the mission, follow my intuition. Stop and stare around, see the beauty that surrounds. Stop and stare around, stop and look around. Tick-a-da-boom-ba-ga-tick-a-da, my head goes up in the clouds. Tick-a-da-boom-ba-ga-tick-a-da, my heart blows the rhythm down. Stop and sing some more to feel a little bit of love. Stop and sing for more, stop and love some more.
Amadou et Mariam et Jane sur RFI, nouvel extrait de cet album qui s'appelle d'ailleurs L'Amomalie, mais en un seul mot, cette fois Mathieu Chédid, quel regard est-ce que vous portez sur Jane, ce succès absolument phénoménal en très très peu de temps en France, mais aussi de plus en plus dans le monde?
Ouais. Ça me fait très plaisir parce qu'en plus je la connais depuis un petit moment. Je connais bien aussi Maxime Nucci qui produit Jane, et c'est donc elle a fait d'ailleurs une première partie à l'époque où je faisais mes tournées en famille. Donc je l'ai rencontré, je l'ai vu évoluer, et c'est toujours beau de voir une artiste qui grandit comme ça, et c'est toujours très beau de voir des succès et de voir des rencontres entre les publics et les artistes. Elle est très jeune, c'est la nouvelle génération, justement ça va très vite, elle a une façon hyper instantanée de créer des sons, de sampler sa voix, et c'est vraiment une vision beaucoup plus actuelle quoi des choses, et ça c'est toujours magnifique. Et puis oui, ça, c'est la nouvelle génération quoi, ça va très vite.
Marianne Niamsi, vous serez la commissaire des prochaines rencontres de Bamako prévues du 2 décembre au 31 janvier prochain, autrement dit de la Biennale africaine de la photographie. Vous êtes en train de travailler, j'imagine, dessus. Comment est-ce que vous allez bâtir ce rendez-vous qui est devenu incontournable maintenant?
Ouais, ce qui est important pour moi, c'est de se dire que cette biennale qui est née en 1994, donc à une époque où il n'y avait rien sur le continent africain en termes de photographie contemporaine, en termes de grands événements. Aujourd'hui, on est dans un monde et une Afrique qui est en profonde mutation, qui a changé, où il y a des producteurs culturels qui agissent de façon assez importante. Donc pour moi, ce qui est vraiment important dans ce projet, c'est de rendre compte en fait de ces transformations du paysage artistique. Et d'inviter, donc je vais travailler, de toute façon c'est ma façon de travailler qui est une façon collaborative, et encore une fois je le dis en tant que commissaire, pour moi en particulier une biennale, c'est pas tant que de tenter d'avoir une sorte de proposition dans laquelle je ferai rentrer à tout prix des œuvres. Biennale, c'est créer pour moi un espace de liberté, et qu'après des choses se produisent, que des rencontres, c'est le terme, c'est le nom des rencontres se fassent, et c'est quand les rencontres se font qu'on produit du sens et qu'on produit quelque chose.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avant de se quitter, on va faire un tour en Égypte, où le pouvoir a de fait organisé la chasse aux artistes de rue, souvent associés aux révolutionnaires, tant l'art mural a explosé au moment de l'épisode révolutionnaire de 2011, moquant les militaires comme les frères musulmans d'ailleurs. Les murs du centre-ville du Caire, qui étaient recouverts de centaines d'œuvres d'artistes, sont désormais tous repeints ou même détruits, et les graffeurs peuvent être condamnés à 15 ans de prison s'ils sont pris sur le fait dans le cadre de la loi sur les manifestations. Impuissants, les artistes se demandent comment réagir, et le plus célèbre d'entre eux, Ganzer, a décidé de déménager à New York. D'autres sont cependant restés et investissent désormais de nouveaux lieux de culture pour diffuser leur art. Reportage pour VMDN de François Hume Ferkatadji.
Au centre de l'îlot de Zamalek, un quartier huppé, ceint par le Nil, c'est dans un bel appartement jalonné d'œuvres d'art que prend place une école d'art et désormais une toute nouvelle galerie. Khaled Hamza, cofondateur de Soma.
Nous avons commencé il y a 4 ans avec l'envie d'éduquer les gens à l'art. Et puis, il y a un an, nous avons aussi eu envie d'exposer des artistes contemporains émergents en Égypte. Nous avons choisi de promouvoir de jeunes artistes contemporains parce qu'ils ont besoin de montrer leur travail au public. Le problème, c'est que la plupart des galeries et les professionnels de ce milieu sont intéressés par des artistes déjà établis, tout simplement parce qu'ils se vendent mieux. Donc, nous avons choisi cette voie et nous avons décidé de défendre cette vision pour montrer de nouvelles formes d'art.
La dernière exposition a mis à l'honneur le travail d'Aya Tarek, 27 ans. L'artiste a commencé à peindre sur les murs d'Alexandrie il y a 10 ans. Elle est vite devenue connue pour ses portraits colossaux de figures androgynes réalisées sur les façades des immeubles. L'Égyptienne a été invitée à peindre au Brésil, en Allemagne, aux États-Unis, en Italie. Mais c'est bien dans cette toute petite galerie du Caire qu'elle expose aujourd'hui. Un travail à contre-pied de ses habitudes. Elle présente de petits croquis, des dessins au crayon de couleur ou au stylo bille.
Je n'aimais pas les institutions, ni les structures. C'est un peu corrompu. Donc j'ai boycotté la scène culturelle ici pendant longtemps. Je ne pensais qu'à exposer mon travail à l'étranger. Et puis j'ai décidé d'avoir cette nouvelle exposition dans ce lieu, Soma Gallery. C'est nouveau pour moi. Ça n'a pas un passif avec lequel je ne suis pas à l'aise. Les gens sont sympas, donc je pense que c'est une bonne occasion de renouer des liens avec les Kairotes, revenir à mes origines et travailler de nouveau dans mon pays.
Une décision qui peut paraître paradoxale, alors que les artistes graffeurs ou colleurs sont désormais désirés non grata dans les rues de la capitale, accusés d'avoir soutenu la révolution de 2011. Les œuvres ont été effacées, l'un des murs emblématiques de la rue Mohamed Mahmoud détruit et certains artistes arrêtés par la police. Mais Aya Tarek explique son choix avec aplomb.
Je ne veux pas être réduite et considérée comme une street artiste toute ma vie. Donc si je trouve quelque chose d'intéressant et que je peux le faire dans la rue, je le fais. Mais aujourd'hui, je trouve que ça n'a aucun intérêt de faire quoi que ce soit dans la rue en Égypte. C'est l'état de mon art, parce que, d'une certaine façon, oui, c'est un acte de protestation, un acte politique. D'une certaine façon, quand vous ne dites plus rien, votre voix est plus forte, parce que nous avions tout cet art dans la rue, et maintenant, nous n'avons plus rien. C'est vraiment une décision puissante aussi. Où sont partis tous ces artistes? Ça montre quelque chose, vous voyez, et je n'aime pas la violence. Je ne veux pas être mis dans une situation où je serai exposé à la violence.
Un rejet de la violence que partage Mohamed Khaled, un autre artiste qui s'est fait mondialement connaître au moment de la révolution avec Kanzir ou Amar Abou Bakr, mais lui au contraire regrette cette impuissance.
En fin de compte, c'est notre responsabilité. Nous devons continuer à sortir dans la rue et à peindre. C'est la seule solution, il n'y en a pas d'autre. C'est possible, mais c'est dangereux. Il y a quelques artistes qui continuent à y travailler. Mais en même temps, si n'importe qui va en prison, je serai triste. Je me demande parfois pourquoi continuer à faire ça, après tout ce qu'il s'est passé. Les gens sont tués, vont en prison. Nous avons encore beaucoup d'amis là-bas. Nous ne savons pas ce qui va leur arriver. Nous ne pouvons pas dire quand ils vont sortir. Vous savez, c'est très déprimant. Mais nous devons continuer.
Les street artistes en Égypte investissent désormais les galeries indépendantes et continuent de travailler différemment. L'année dernière, le franco-tunisien El Cid a cependant réalisé un joli coup en peignant discrètement une fresque monumentale sur 50 immeubles différents dans le quartier des chiffonniers du Caire, Manchet El Nasr. Une anamorphose qui s'apprécie en prenant du recul, en l'observant depuis une colline. L'œuvre a été saluée dans le monde entier, les photographies devenant virales sur les réseaux sociaux, la protégeant de toute destruction par les autorités.
Reportage de François Humphrey Kataji au Caire, l'Égypte. Mathieu Chédid, vous connaissez bien, c'est un pays cher à votre cœur. Hein. Vous avez du Nil dans vos veines, comme vous l'avez chanté. Quel regard est-ce que vous portez sur l'évolution du pays et sur la place des artistes dans la façon dont l'Égypte contemporaine évolue?
Je dois avouer que j'ai malheureusement plus des origines qu'un vécu là-bas. J'ai été effectivement en Égypte 2-3 fois et aussi au Liban, puisque je suis d'origine libanaise aussi. Mais c'est vrai que, honnêtement, j'en sais pas grand-chose. Je crois que...
Marianne MC a peut-être
Oui, je pense que la situation est... Je pense que les artistes sont dans un très grand isolement. Il y a un an, Simon Djami, grand commissaire, a préparé avec Mouat Asnas. Mouat Asnas est un grand artiste égyptien et qui a investi à peu près tout ce qu'il gagne à l'étranger dans un centre d'Arbes, 1789, qui est vraiment dans le quartier le plus pauvre du Caire et est ouvert à des artistes, présente des expositions de grande qualité, organise des festivals. Donc avec Simon Mouataz, ils ont organisé une sorte de biennale off, une biennale contre-biennale alternative, oui. À laquelle j'ai le plaisir de participer. Et c'est toujours pareil, je trouve formidable ce qui se passe au Liban, il y a des centres d'art formidables qui ouvrent, etc. Mais sauf, voilà, il faut regarder un peu de côté ce qui se passe au Caire est formidable, ce qui se passe à Ramallah, ailleurs, dans d'autres territoires, est formidable aussi en termes de création contemporaine. Il faut les regarder, les soutenir.
Eh bien, on essaiera de suivre ça de près. Merci beaucoup, Marie-Anne Yemsi. L'exposition Le Jour qui vient à la Galerie des Galeries est jusqu'au 10 juin dans le cadre de la saison Africanao. Merci infiniment, Mathieu Chédid, d'être passé nous voir L'Amoumali, l'album chez Vagram Music. Et puis, vous serez en concert aux Nuits de Fourvière de Lyon les 1er, 2 et 3 juin, puis à Paris, Salle Pleyel du 9 au 11 juin, et ensuite plusieurs dates en province en juin et juillet. Vous avez prévu d'aller au Mali?
Ça serait beau de finir au Mali, effectivement.
On a commencé. Tu es invité, hein. Tu es invité début décembre pour les
avec
rencontres.
Plaisir, avec plaisir. On a commencé au Mali, hein, parce qu'on a fait donc ses premiers concerts avec Toumani, Sidiki, Fatoumata, là en janvier. Donc ça serait magnifique de finir au Mali, ouais. J'en rêve.
Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci. À demain. Dans un instant, l'info sur RFI. À demain, vous m'en direz des nouvelles.